Vous êtes sur RTL.
Il est 9h.
RTL Matin, Stéphane Carpentier et le journal d'Agnès Bonfillon.
Absolument, bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Toute l'actualité, bien malin celui qui peut prédire le vainqueur de la Coupe de la Ligue de football.
Une finale placée sous le signe du suspense avec d'un côté Guingamp.
Shoot en avant, allez Guingamp, tous les supporters sont dans ton camp.
Et de l'autre, Strasbourg, là aussi ça chante. Soutenir le club alsacien à Villeneuve-d'Ascq, ce soir le match est à 21h05 précisément, 25 000 supporters font le déplacement en bus, en voiture, en train. Bonjour Yannick Holland.
Bonjour.
Départ imminent pour ces fans et vous êtes avec eux Yannick.
Et oui, puisque les compagnies de cars régulières ont changé leurs horaires pour que tous les supporters arrivent à temps pour la finale. Le bus va partir ici à 9h et tous les voyageurs portent le maillot du Racing.
Ah, on est très chaud, très chaud.
Chaud bouillant, chaud bouillant, monsieur, je vous le dis.
C'est marseillais.
Supporter de Strasbourg quand même.
Ah, toujours, toujours.
On va essayer de rejoindre le cortège en fait, histoire de se mettre dans l'ambiance. Et après, on se laisse porter et la fête commence quoi.
On ramène un coup à la maison.
Ouais. Alors c'est presque inespéré pour Lucas et Maxime. Ils ont trouvé des places pour la finale il y a 2 jours seulement. Ils vont partir en covoiturage et ils ont trouvé une voiture hier soir, 22h.
Ça fait plaisir quand même de voir la finale quoi, sans déconner. Surtout qu'au final on a quand même vraiment le cul bordé de nous et qu'on se retrouve en finale l'année où Guingamp sort le PSG, le truc inimaginable c'est magique quoi, c'est top.
Alors à Lille, les Alsaciens retrouveront d'autres supporters déjà arrivés. Certains ont fait le trajet à vélo depuis Strasbourg, ils sont arrivés hier. Et puis le record pour cette grande migration alsacienne, c'est un supporter parti de Sydney en Australie qui sera présent pour la finale.
Fantastique, Yannick Holland avec les Strasbourgeois pour RTL. Entre 20 et 25 000 Alsaciens dans les tribunes ce soir. Ils seront 10, 12 000 du côté des Bretons. Guingamp, Strasbourg, à suivre en direct dans Soir de Finale sur la première radio de France, s'il vous plaît. Ce sera de 20h à minuit.
En ouverture de la 30e journée de Ligue 1 hier soir, Lyon s'est imposé à Rennes 1-0. L'OL revient à 1 point de Lille, toujours deuxième au classement. Une victoire méritée selon l'entraîneur Bruno Genesio, dont on saura mardi s'il est reconduit dans ses fonctions.
20e samedi de mobilisation des Gilets jaunes et Agnès, une nouvelle ville comme point de rendez-vous.
Avignon, en l'occurrence, pour contrer d'éventuelles violences. Les manifestations sont interdites intramuros. Étienne Baudu, vous êtes sur place pour RTL. C'est une ville barricadé.
Oui, le centre-ville d'Avignon à l'intérieur des remparts est transformé en véritable bunker. Les poternes par où passent les piétons ont été cadenassées dès hier et les portes, elles, sont barricadées. Des fourgons de CRS, barrières anti-émeutes accrochées à l'avant, interdisent l'accès à la ville. Et à l'intérieur des remparts, c'est donc ville morte, constate Laurence.
Ben, on dirait qu'il s'est passé un truc grave, on dirait, puisqu'il n'y a personne dans les rues. Tout est fermé, il y a beaucoup de vitrines qui ont même protégé leur devanture. C'est et dommageable et triste. Après, effectivement, toutes les semaines, il y a de la casse. On peut comprendre que les commerçants en aient marre.
Sabine tient, elle, une brasserie sur le cours Jean Jaurès. Elle a tenu, malgré tout, à ouvrir.
C'est se dire de servir un ou deux cafés peut-être aux gens qui passent. Je ne dis pas qu'on va faire le service du midi, on va surtout être vigilant. Et s'il faut fermer les portes, on ferme les portes, bien sûr. On peut comprendre le mouvement, mais on a du mal à comprendre la casse, voilà.
Pour l'instant, Sabine a servi 4 cafés seulement. Alors maintenant, l'accès est filtré aux portes. La préfecture ayant interdit, vous le disiez, tout rassemblement intramuros de 9h à minuit. Les Gilets jaunes, qui eux, se sont donné rendez-vous à midi au pied du Palais des Papes, au cœur de la ville, d'où une certaine tension déjà palpable.
Étienne Baudu, en direct d'Avignon pour RTL. À Bordeaux, le maire Nicolas Florian a carrément décrété une journée ville morte. Il était il y a quelques minutes sur notre antenne. Les habitants sont invités à rester chez eux. Les commerçants sont priés de ne pas ouvrir leurs boutiques. À signaler que d'autres villes ont interdit les manifestations, Saint-Étienne, Toulouse, Épinal ou encore Rouen. Après une semaine de polémique, le procureur de Nice rétropédale. La manifestante blessée samedi dernier lors d'une charge des forces de l'ordre a bien été poussée par un policier. Geneviève Leguet, 73 ans, est toujours hospitalisée. Sa famille regrette l'empressement d'Emmanuel Macron qui, dès le lendemain, souvenez-vous, lui avait souhaité davantage de sagesse, ce sont ses mots. L'association Attaque, dont fait partie la victime, appelle à manifester avec des drapeaux arc-en-ciel en signe de solidarité. Ce samedi, les syndicats d'enseignants appellent appellent également à se mobiliser dans toute la France contre la réforme du lycée et la loi Blanquer. À Paris, le cortège partira à 14h du Panthéon pour rallier la place d'Italie.
On en vient, Agnès, à un nouvel acte antisémite. Cette fois, ça s'est passé en Meurthe-et-Moselle.
Une croix gammée a été peinte sur une stèle en hommage à Simone Veil. Ça s'est passé à Vendeuvre-les-Nancy. Le maire de la ville a immédiatement déposé plainte. Au-delà des sanctions, Stéphane Ablot souhaite une vraie prise de conscience pour lutter contre l'abject.
Quand je vois une ville comme Vendeuvre, quand je vois les ghettos qu'on a laissé faire, quand je vois le fossé qui est creusé dans cette misère galopante, je me dis que c'est un terrain fertile où pousse toujours l'extrémisme. Donc, oui, à la condamnation, inévitablement, la condamnation doit être faite à cet acte abject. Et après, c'est pas suffisant. On peut pas se contenter, enfin je veux dire, c'est du snobisme de faire que ça. Et pour combattre, il faut vivre ensemble. Il faut donner les moyens du vivre ensemble et de l'éducation. Quand quelqu'un est éduqué et vit décemment, il ne se réfère pas au nazisme qui est le rejet de l'autre.
Stéphane Ablot, le maire de Vendeuvre-les-Nancy, au micro RTL de Samuel Goldschmidt. La cour d'assises de Haute-Garonne l'a reconnu coupable du meurtre de Patricia Bouchon. Laurent Desjean a été condamné hier à 20 ans de réclusion criminelle. Les jurés n'ont pas suivi l'avocat général qui demandait l'acquittement faute de preuves. La défense de l'ouvrier plaquiste va faire appel.
Dans un instant, vous restez bien avec nous, la suite de RTL Matin. Nous allons en Algérie où il y a toujours autant de monde dans les rues. A tout de suite.
RTL Matin 9h07, la suite du journal. Stéphane Carpentier, Agnès Bonfils.
Et donc Agnès, en Algérie, la rue ne lâche rien.
Pour le sixième vendredi consécutif, les rues de la capitale étaient remplies de manifestants. Le chef des armées a tenté de calmer la colère il y a quelques jours en proposant le départ anticipé d'Abdelaziz Bouteflika. Mais c'est loin d'être suffisant. Le peuple veut la fin d'un système. Et dans ces cortèges, ce sont les jeunes qui sont en première ligne, Mourad Jabari.
Ils n'ont connu que Bouteflika au pouvoir et le système qu'ils rejettent depuis six semaines. Au milieu du cortège, ils s'époumonnent. Ces jeunes Algériens sont pour la plupart au chômage, comme l'Arbi.
Regardez tous ces jeunes, on a 33 millions de jeunes qui ne travaillent pas, qui cherchent du travail, qui possèdent même des diplômes, des masters et des doctorats. Mais vous allez toujours le trouver contre le mur. Par exemple, on a un frère ici, il a un master, il ne trouve toujours pas de travail. À cause de qui? C'est pas à cause du peuple.
Des jeunes désœuvrés, seul le départ de Bouteflika et de son clan leur permettrait d'avoir un avenir meilleur d'après eux. Et ce sont les anciens dans les manifestations qui encouragent la jeunesse.
Il n'y a que des jeunes, c'est un peuple de jeunes. Nous, on les accompagne, on n'a rien à foutre. Nous, on doit partir, notre avenir est derrière nous. L'avenir, c'est eux.
Plus de la moitié de l'Algérie a moins de 30 ans, tous frappés par un chômage de masse. Maman de deux garçons, Laïla, vient manifester pour eux.
Le système d'aujourd'hui, il pratique la politique de la terre brûlée. C'est le nivellement par le vide. La seule opportunité, le seul rêve possible aujourd'hui, c'est l'exil. Ce n'est pas possible.
Une jeunesse mobilisée, moteur de la contestation, qui ne souhaite rien d'autre que du travail et le départ de Bouteflika.
Mourad Jabari, l'envoyé spécial de RTL en Algérie. La Grande-Bretagne est dans le fog le plus total, le brouillard. Pour la troisième fois, les députés britanniques ont rejeté le traité de sortie de l'Union européenne négocié par Theresa May. Désormais, le Royaume se retrouve face à deux options, soit un Brexit dur sans aucun accord le 12 avril prochain, soit un nouveau report.
Le fog, le brouillard, vous êtes impressionnante. Depuis hier, Agnès, les hommages sont nombreux et unanimes pour louer le génie d'Agnès Varda.
La réalisatrice est morte dans la nuit de jeudi à vendredi, à l'âge de 90 ans. C'est elle qui a posé les premiers jalons de la nouvelle vague. Femme de conviction, elle mettait en lumière les invisibles dans ses films. Pour elle, c'était une mission, une évidence, comme elle le confie à Stéphane Boutsock lors de la promotion de Visage Village, il y a deux ans.
Moi, toute ma vie, j'ai filmé, j'ai écouté des gens qu'on n'écoute pas beaucoup. J'ai fait un film sur des glaneurs, j'ai fait un film sur des squatteurs, j'ai fait un film sur les veuves. C'est plutôt mon goût de se dire, donner la parole et mettre en lumière, mettre en valeur des gens qui n'ont pas l'habitude d'y être. Avec un petit peu de curiosité, en les attrapant au vol, on a eu de la chance, on a rencontré des gens magnifiques et on les oublie pas. Et notre idée de passeur-passeuse, c'est que maintenant vous les connaissez.
Agnès Varda qui répondait à Stéphane Boutsock pour RTL.
Et puis Agnès, le week-end va passer un petit peu plus vite que d'habitude puisque nous changeons d'heure la nuit prochaine.
Et oui, à 2h, il sera 3h. On avance donc sa montre, c'est logique. Remettre les pendules à l'heure tous les 6 mois, ça pourrait ne pas durer. Une grande consultation a été menée dans les pays européens pour savoir quelle était la préférence de chacun. La fin du changement ne veut pas dire que tous les pays seront à la même heure. Pour l'instant, avec la Belgique, par exemple, il n'y a aucune différence. Mais si Bruxelles décide de se positionner par rapport aux Pays-Bas, eh bien, les frontaliers devront subir un petit jet-lag quotidien, Franck Hanson.
Avec ses horaires décalés, Richard passe la frontière plusieurs fois par jour sans y faire attention. Pour l'instant, pas besoin de deux montres. Ce livreur nordiste n'ose pas imaginer de créneaux différents.
Je travaille en France et j'habite à Moucron, j'habite en Belgique. Ça va être compliqué pour moi. Il y aura l'horaire belgique qui va être décalé par rapport à l'horaire français. Je fais des livraisons, je pars vers 4-5 heures du matin, donc c'est vrai que ça va être embêtant le décalage. En espérant que la Belgique, elle se met du côté français.
Au poste de Réquiem, des routiers sont déjà un peu habitués, mais ce wallon ne cache pas quelques inquiétudes.
Au Portugal, c'est déjà comme ça. Quand on sort de l'Espagne et qu'on va au Portugal, il y a déjà une différence d'heure. Si jamais avec l'heure d'été, ils ne sont pas d'accord, c'est comme dans tous les pays, il y a toujours deux poids, deux mesures. Moi, je fais que de la Belgique, France, parfois de la Hollande. Si jamais les horaires ne sont pas les mêmes, ça va être difficile. Les fermetures d'usines et les heures d'attente, qui c'est qui va les payer? On verra bien.
Dans la vie quotidienne, il pourrait y avoir aussi des complications, comme pour cette jeune maman de Tourcoing.
Je travaille en France et mon fils, il va à l'école en Belgique. Ça sera compliqué parce que si on commence une heure avant nous et que lui commence une heure après, ça va pas. Il y en a un des deux qui sera en retard.
La dernière fois que la France et la Belgique ont eu une heure différente, c'était en 1976.
Le reportage de Franck Hanson pour RTL entre Moucron et Tourcoing.
Et je vous rappelle les mots d'Agnès Bonfillon, à 2h, il sera 3h la nuit prochaine, on avance donc sa montre, c'est logique. On rappelle aux auditeurs les plus fidèles qu'Agnès avait raté justement ce changement d'heure cet hiver.
C'est pas exactement ça, mais quand j'aurai le temps, je vous expliquerai.
On n'a pas le temps. Régler les montres et les réveils pour la nuit prochaine. Agnès Bonfillon, toute l'actualité, c'est RTL.fr.